18h. Le journal de 18h. Paul Bénédicte Bolou.
Il est 18h, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de ce vendredi 29 novembre. Un atelier pour une connectivité universelle en Afrique se tient à Abidjan, une initiative significative sur le développement technologique et économique du continent. Il en est question du 28 au 29 novembre. Culture endogène et éducation en Afrique. Durant 3 jours, des experts sont à Abidjan pour des solutions innovantes. Cet événement est organisé par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Hors de nos frontières, le Tchad met fin à son accord de défense avec la France. Un tournant inattendu dans les relations bilatérales, une annonce survenue quelques heures après une visite à N'Djamena du chef de la diplomatie française. Voilà pour l'essentiel. À Abidjan, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, en collaboration avec l'Union africaine des télécommunications et l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie, organise un atelier les 28 et 29 novembre. Cet événement vise à évaluer l'efficacité des fonds de service universel des télécommunications en Afrique. Les discussions portent sur des solutions innovantes pour réduire les zones blanches et améliorer la connectivité, notamment en milieu rural. Les perspectives qui émergent de cette rencontre avec Mata Touré.
Cette rencontre planche sur les moyens de combler la fracture numérique en passant par la mobilisation des fonds de service universel afin d'aboutir à une connectivité plus élargie en Afrique, surtout dans les zones moins favorisées ou encore appelées zones blanches. Les experts et acteurs du secteur, des décideurs également, se sont réunis pour échanger sur les enjeux cruciaux de la connectivité et surtout l'amélioration aux services de télécommunications en zone rurale. Gilles-Thierry Begré, le directeur général de l'ANSUT.
Une rencontre de ce type régional permet de partager des expériences, d'adresser ensemble des difficultés et éventuellement mettre en place une stratégie commune pour améliorer notre activité et faire en sorte que chaque citoyen reste connecté.
John Omo est le secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications.
Mais aussi s'assurer qu'on marche dans la même direction et faire en sorte que même les zones rurales ou les zones qui sont loin de nos grandes villes aient accès aux services des télécommunications et du digital. C'est une série d'actions en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre, en Afrique du Nord, en Afrique australe pour permettre aux télécommunications d'être accessibles à monsieur tout le monde.
Cet atelier est une étape importante dans l'évolution de l'efficacité des fonds de service universel de télécommunications en Afrique. Les discussions en cours sont pleines de promesses pour un avenir numérique inclusif et connecté pour tous.
Le séminaire international, opération de révision de la liste électorale, conclusion du consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire, COSELSI, lors d'une conférence de presse tenue hier jeudi à Abidjan. Le porte-parole du COSELSI a évoqué la faible mobilisation et des incidents survenus durant la révision de la liste électorale qui s'est déroulée du 19 octobre au 17 novembre 2024. Drissa Soulama se prononce sur les perspectives de cette organisation.
Le non-déploiement des autorités judiciaires pour organiser les audiences foraines a constitué un frein majeur, en particulier dans les zones rurales. Le COSELSI a recensé 211 incidents critiques, notamment dus à des retards d'ouverture des centres d'enrôlement, des délocalisations de centres d'enrôlement sans information préalable, des dysfonctionnements techniques au niveau des tablettes biométriques, des difficultés d'accessibilité pour les personnes en mobilité réduite. La radiation des personnes décédées reste largement insuffisante. En ce qui concerne les activités en ligne, l'analyse révèle une polarisation marquée de débats, des accusations de fraude, notamment l'inscription de non-nationaux, des convoyages d'électeurs, la polarisation accrue autour de la réinscription de l'ancien président Laurent Gbagbo, Dès janvier 2025, le consortium lancera un programme d'observation à long terme en préparation des élections présidentielles d'octobre 2025. Sur la base des observations recueillies, le consortium publiera des communiqués de presse réguliers pour faire le point et alerter sur les risques et conflits potentiels. Par ailleurs, dès la publication de la liste électorale provisoire issue de la RLE 2024, le consortium procédera à son analyse informatisée afin de vérifier la fiabilité du fichier électoral et du processus dans son ensemble.
Drissa Soulama, porte-parole du consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire. À Gbablasso, un village de la sous-préfecture de Biankouma, l'équipe projet PGDEC 3 du conseil régional du Tonkpi a récemment mené une mission de travail. Objectif, faire le point sur les avancées et les défis rencontrés par les bénéficiaires des sous-projets d'activités génératrices de revenus et d'associations villageoises d'épargne et de crédit. Les précisions de Stéphane Adams, notre correspondant dans le Tonkpi.
Ces appuis apportés aux jeunes vivant en milieu rural par le conseil régional du Tonkpi connaissent des avancées notables. Cependant, quelques bénéficiaires éprouvent des difficultés.
Mon projet, c'est achat des bananes. Je n'ai pas encore mes papiers. Parce que j'ai un problème des papiers. Quand je vais faire, je vais aller ouvrir mon compte. Merci au conseil régional du Tonkpi. Merci à la Banque mondiale.
Kwakuya Aurélien, j'ai ouvert mon compte à la COPEC de Biankouma. Le levier du port, j'attends le financement du projet. Je dis merci au conseil régional et son président Mabou. Merci aussi à la Banque mondiale.
L'agent du cabinet d'appui au développement communautaire du volet appui à la mise en œuvre des activités génératrices des revenus ou moyennes et petites entreprises du Tonkpi, Djebidje Ruffin, ne s'est pas fait prier pour relever ceci.
Pour le village de Gbablasso, en fait, c'est plus au niveau du manque d'engouement des jeunes. Les jeunes sont vraiment démotivés. Les jeunes Yakuba, je dirais, sont vraiment démotivés par rapport au projet. C'est un peu le souci majeur que je pourrais relever à ce niveau-là. Il ne faudrait pas que, à la longue, ça soit objet de litige entre les jeunes Yakuba et les autres qui résident dans le village de Gbablasso. Voilà, déjà dit au président du comité de gestion des plaintes, de déjà commencer à relever les risques qui pourraient mettre à mal la réussite du projet, mettre tout en œuvre pour la réussite du projet.
Rappelons que le projet emploi jeunes et développement des compétences est prioritairement destiné à l'appui des jeunes vivant en milieu rural. Stéphane Adams, de retour de Gbablasso, Radio de la Paix.
À Abidjan se tient la 11e conférence des instances de régulation de la communication en Afrique. Du 28 au 30 novembre, les experts se penchent sur un sujet crucial, la régulation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la communication audiovisuelle et numérique. Restez avec nous pour découvrir les enjeux et les perspectives de cette rencontre continentale. À tout de suite, le point de Jean-Mélène Bitti.
L'IA est au centre de la 11e conférence des instances de régulation de la communication en Afrique, RIAC. Maître René Bourgoin, président de la ACA, futur président du RIAC, a souligné l'importance de ce thème.
Ce thème, pour tenir compte des évolutions technologiques, l'intelligence artificielle générative dans le domaine de la communication audiovisuelle, recèle de gros avantages, mais également des risques de désinformation. Avec les deepfakes, c'est un danger absolu pour la démocratie. Parce qu'on peut faire dire à quelqu'un tout ce qu'on veut avec des mots diffamatoires.
Latifa Arkabach, présidente de la ACA du Maroc et présidente en exercice, a abordé les efforts pour réduire les risques liés à l'IA.
Nous plaidons pour qu'il y ait un encadrement juridique de l'intelligence artificielle pour circonscrire les risques de désinformation.
Olivier Mestre, président de l'autorité de régulation de France, a salué les compétences de René Bourgoin.
Je connais ses grandes qualités. Qu'elles permettront au RIAC de progresser vers un espace numérique intègre et de confiance.
Amadou Koulibaly, ministre de la Communication représentant le Premier ministre, a expliqué les attentes du gouvernement pour cette conférence.
Les propositions sur l'encadrement de l'utilisation de l'IA que vous allez adopter est fortement attendue. C'est ce qui servira de base à l'adoption d'un cadre juridique approprié de la régulation de l'IA dans le secteur de la communication audiovisuelle.
L'événement de trois jours réunissant près de 26 pays africains comprendra de nombreux panels et communications.
Le séminaire international de la SCAD prend fin aujourd'hui vendredi à l'amphithéâtre Adama Diawara de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Depuis le mercredi, une dizaine d'experts venus du Bénin, du Burkina Faso, du Nigeria et des États-Unis, ainsi que de la Côte d'Ivoire se penchent sur les cultures endogènes et l'éducation en Afrique. Ils partagent leurs réflexions en vue de proposer des solutions pour l'impact des cultures locales sur le système éducatif. Avec César Yao, découvrons les temps forts de cet événement.
Le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, le professeur Akengbo, à l'ouverture de ce séminaire, a estimé que c'est dans une réflexion commune que l'on peut transformer la diversité des cultures en moteur d'un progrès durable et inclusif.
L'histoire nous enseigne que les civilisations qui prospèrent sont celles qui savent puiser dans leurs racines pour s'adapter aux défis de leur temps.
Face aux nombreux experts, le président du comité scientifique, le professeur Pierre Kipri, s'est posé trois questions essentielles dont les réponses aideront à inventer un nouveau modèle d'éducation en Afrique.
Première question, qui sait ? Deuxième question, qui décide de ce qu'il faut savoir ? Troisième question, qui décide de qui décide quoi savoir ? Et l'avenir des cultures endogènes de l'Afrique dépendra des réponse que nous donnerons à ces trois questions à travers nos institutions éducatives. Il dépendra aussi de notre capacité à relever le défi des changements dans le monde tout en préservant et en renforçant le patrimoine endogène susceptible de maintenir la cohésion de notre société pour qu'elle soit un nous collectif et viable. Sur ces bases qui permettent d'inventer un nouveau modèle d'éducation, quels sont les points clés du futur système et de la renaissance culturelle?
Ce séminaire international qui prend fin vendredi débattra également des présences africaines et des diasporas dans la culture universelle.
Hier jeudi, le Centre d'excellence Wave Central and West African Virus Epidemiology a organisé une journée dédiée à la presse au pôle scientifique et d'innovation Félix Houphouët-Boigny de Bingerville. Objectif de cette rencontre, créer un cadre d'échange pour mieux faire connaître le rôle et les missions de Wave, qui est spécialisé dans la détection, l'identification et la caractérisation des agents pathogènes de plantes pour une surveillance sanitaire. Le directeur exécutif professeur Justin Pita partage les enjeux de cette collaboration.
Il était important que nous ayons ce rendez-vous entre la recherche et la communication, plus précisément Wave Research, pour que nous puissions vous dire ce que nous faisons. Vous savez, les plantes peuvent être malades. Et quand la plante est malade, la plante peut mourir comme l'homme. Et quand une plante meurt, on ne l'a plus. Si c'est une plante alimentaire, c'est encore plus grave. Et donc, il est important que nous fassions beaucoup de sensibilisation et que nous puissions avoir l'adhésion des décideurs politiques pour nous aider à travailler sur la santé des plantes, à faire de la santé des plantes, un pilier primordial du développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons démontré qu'il y a un virus qui détruit la récolte de manioc de 90 à 100%, qui est en train de venir de l'est de l'Afrique, actuellement en Afrique centrale. Il est aux portes de l'Afrique de l'Ouest, ce virus. En plus de ce virus, nous venons de découvrir un autre virus aussi dévastateur en Guinée. La Côte d'Ivoire, particulièrement, est en sandwich entre ces deux menaces. L'un de ces virus fait une destruction de la récolte de 90 à 100%. L'autre fait une destruction de 20 à 70%. Imaginez quand les deux se rencontrent, c'est 100%. Si nous ne sommes pas proactifs, nous risquons d'avoir des problèmes de sécurité alimentaire parce que nous connaissons l'importance du manioc dans notre alimentation en Côte d'Ivoire.
Professeur Justin Pita, directeur exécutif du Centre d'excellence Wave, logé au sein du pôle scientifique et d'innovation Félix Houphouët-Boigny de Bingerville. Au Palais de la Culture à Abidjan-Trècheville, s'est tenue hier jeudi la cérémonie de lancement du projet des filets socio-productifs marquant l'intégration de 25 000 nouveaux ménages aux 432 000 anciens bénéficiaires. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a présenté les acquis de ce programme lancé depuis 2017. Avec Jean-Claude Mabéa, découvrons les détails de cette initiative.
La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a fait le point du projet filet socio-productif de 2017 à ce jour. Miss Belmonde Dogo.
De 2017 à ce jour, 432 000 ménages ont été touchés pour un montant cumulé de plus de 148 milliards redistribués. En 2024, 205 ménages continuent de recevoir ces transferts monétaires après les sorties progressives des premières cohortes bénéficiaires. Le lancement des 25 000 nouveaux ménages ce jour consacre le passage de 205 000 à 230 000 ménages actifs. Cela veut dire que tous les trois mois, c'est un investissement de plus de 8 milliards qui va vers le porte-monnaie de nombreuses familles.
À sa suite, le ministre du Commerce et de l'Industrie a exhorté les nouveaux bénéficiaires du projet socio-productif Souleymane Diarra Souba.
Je voudrais donc à mon tour, au nom de Monsieur le Premier ministre, vous inviter à vous approprier ce programme par un bon usage des allocations trimestrielles de 36 000 francs que vous percevrez.
Voici quelques témoignages d'anciens bénéficiaires après réception d'attestations de bonnes pratiques.
Aujourd'hui, grâce à Philo Socio, ma vie a changé. Mon fils s'épanouit, moi-même je m'épanouis. J'arrive à payer ma maison, je paye mon courant, mon eau.
Bon, avant, ça n'allait pas trop plus qu'on a des enfants. Et quand le projet est venu, ça nous a apporté plus. Il y a eu un changement. Ça fait que bon, l'attente, l'harmonie est revenue à la maison. Ça va, ça va.
La visite des stands des bénéficiaires a mis un terme à cette cérémonie.
En page internationale, le Tchad a annoncé hier jeudi la fin de son accord de coopération en matière de défense avec la France, une décision surprise qui a pris de court les autorités françaises. Cette annonce est survenue peu après la visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à N'Djamena. Les hauts gradés français ont exprimé leur étonnement, soulignant qu'ils n'avaient pas été informés de ce revirement. La déclaration tchadienne publiée alors que Barrot était en vol a provoqué une réunion de crise à l'Élysée pour tenter de comprendre les raisons de cette décision. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a rappelé que le Tchad est un État souverain, soulignant ainsi son désir d'affirmer son indépendance vis-à-vis de la France. Et puis toujours hors de nos frontières, Rokia Traoré, chanteuse malienne, a été transférée d'Italie et écrouée en Belgique suite à une condamnation pour non-représentation d'enfants. Après plus de 5 mois en prison italienne, Rokia Traoré, âgée de 50 ans, a été extradée à Bruxelles où un conflit concerne la garde de sa fille, née d'une union en 2015 avec son ancien compagnon. Son avocate souligne des violations des droits de la défense, affirmant qu'elle n'a pas été informée de son procès en octobre 2023, ce qui l'a empêché de se présenter et de se défendre. La situation soulève des questions juridiques internationales importantes et qualifiées par des observateurs de graves violations des droits de la défense et du principe d'un procès équitable. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Un atelier pour une connectivité universelle en Afrique se tient à Abidjan, une initiative significative sur le développement technologique et économique du continent. Il en est question du 28 au 29 novembre. Culture endogène et éducation en Afrique. Durant 3 jours, des experts sont à Abidjan pour des solutions innovantes. Cet événement est organisé par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Fin de ce journal, l'information sera de retour demain samedi. Pour l'heure, je vous laisse en compagnie de Sonia Ondian dans votre magazine humanitaire sur Radio de la Paix. Merci et bonsoir.